Vous écoutez France Culture.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Notre invitée de cet après-midi s'appelle...
Clémentine Hogue.
Elle est docteure en littérature générale et comparée. Avec elle, c'est une quatrième étape dans cette dernière semaine consacrée au mélange, une étape poétique, puisqu'il y sera question du cut-up dans l'œuvre de William Burroughs. Ça commence.
My trouble began when they decided I was executive timber. It happens like this. A big blonde driller from Dallas picked me out of the labor pool to be his houseboy in a prefabricated bungalow.
Pas la peine de crier, c'est le titre que je donnais à une émission il y a exactement 4 ans, comme on met une photo intime dans une chambre d'hôtel histoire de se sentir chez soi. J'apportais sur les ondes le titre d'un blog que je tenais depuis des années. Pas la peine de crier devint peu à peu la banderole d'une façon de faire de la radio, de transmettre la pensée, de considérer la parole et le temps long, y compris comme ingrédient de subversion. Une façon d'être du côté de la douceur. En plus de 900 émissions et entre autres 1000 shows, j'ai appris que faire de la radio sur le service public, c'est s'attacher très fort à quelque chose qui est à tout le monde, donc qui n'est pas à soi, donc qui n'est pas une chambre d'hôtel. Faire de la radio, c'est apprendre à décrocher des murs les photos intimes pour que tout le monde se sente chez soi. Et 16 heures passées de 2 minutes, vous écoutez France Culture et l'année prochaine, on change de nom. Vers 16h13, on fait apparaître un dernier Polaroid et c'est Romain qui l'a choisi. Vers 16h20, quatrième moment de cette semaine consacrée au mélange aujourd'hui, il est question de poésie, William Burroughs redécoupé, remélangé par Clémentine Hogue. Vers 16h50, un poème de Pierrot Bigonja vous est lu par un comédien de la Comédie Française et à 17h, on souhaitera un bel été aux équipes du 5 à 7. En attendant, Romain de Bec-de-Lièvre tend son micro à la comédienne Delphine Riche qui déballe sa bibliothèque. Cette semaine, elle choisit aujourd'hui un extrait du Don Quichotte de Cervantes, on l'écoute.
En ce moment, ils découvrirent 30 ou 40 moulins à vent qu'il y a dans cette plaine, et dès que Don Quichotte les vit, il dit à son écuyer « La fortune conduit nos affaires mieux que ne pourrait y réussir notre désir même. Regarde, ami Sancho, voilà devant nous au moins 30 démesurés géants auxquels je pense livrer bataille et ôter la vie à tous tant qu'ils sont. Avec leurs dépouilles, nous commencerons à nous enrichir, car c'est prise de bonne guerre et c'est grandement servir Dieu que de faire disparaître si mauvaise engeance de la face de la terre. » « Quel géant ? » demanda Sancho Panza. « Ceux que tu vois là-bas, lui répondit son maître, avec leurs grands bras, car il y en a qui les ont de presque 2 lieues de long. » « Prenez donc garde, répliqua Sancho, ceux que nous voyons là-bas ne sont pas des géants. » Mais des moulins à vent, et ce qui paraît leurs bras, ce sont leurs ailes, qui, tournées par le vent, font tourner à leur tour la meule du moulin. « On le voit bien, répondit Don Quichotte, que tu n'es pas expert en fait d'aventure. Ce sont des géants, te dis-je. Si tu as peur, ôte-toi de là et va te mettre en oraison pendant que je leur livrerai une inégale et terrible bataille. » En parlant ainsi, il donna de l'éperon à son cheval Rocinante, sans prendre garde aux avis de son écuyer Sancho, qui lui criait qu'à coup sûr, c'était des moulins à vent et non des géants qu'il allait attaquer. Pour lui, il s'était si bien mis dans la tête que c'était des géants, que non seulement il n'entendait point les cris de son écuyer Sancho, mais qu'il ne parvenait pas, même en s'approchant tout près, à reconnaître la vérité. Au contraire, et tout en courant, il disait à grands cris « Ne fuyez pas, lâches et viles créatures, c'est un seul chevalier qui vous attaque !» Un peu de vent s'étant alors levé, les grandes ailes commencèrent à se mouvoir. Ce que voyant Don Quichotte, il s'écria « Quand même vous remuriez plus de bras que le géant Briaré, vous allez me le piller !» En disant ces mots, il se recommande du profond de son cœur à sa dame Dulcinée, la priant de le secourir en un tel péril, puis bien couvert de son écu et la lance en arrêt, il se précipite au plus grand galop de Rocinante contre le premier moulin qui se trouvait devant lui. Mais au moment où il perçait l'aile d'un grand coup de lance, le vent la chasse avec tant de furie qu'elle met la lance en pièces et qu'elle emporte après elle le cheval et le chevalier qui s'en alla rouler sur la poussière en fort mauvais état. Sancho Panza accourut à son secours de tout le trot de son âne et trouva, en arrivant près de lui, qu'il ne pouvait plus remuer tant le coup et la chute avaient été rudes. « Miséricorde !» s'écria Sancho. « N'avais-je pas bien dit à votre grâce qu'elle prit garde à ce qu'elle faisait, que ce n'était pas autre chose que des moulins à vent et qu'il fallait, pour s'y tromper, en avoir d'autres dans la tête ?»« Paix, paix, ami Sancho !» répondit Don Quichotte. « Les choses de la guerre sont plus que tout autre sujettes à des chances continuelles, d'autant plus que je pense, et ce doit être la vérité, que ce sage Freston qui m'a volé les livres et le cabinet a changé ces géants en moulins pour m'enlever la gloire de les vaincre, tant est grande l'inimitié qu'ils me portent. Et en fin de compte, son art maudit ne prévaudra pas contre la bonté de mon épée. » « Dieu le veuille comme il le peut, » répondit Sancho Panza, et il aida son maître à remonter sur Rocinante, qui avait les épaules à demi déboîtées.
Delphine Riche, vous venez de nous lire un extrait du Don Quichotte de Cervantes, l'extrait sans doute le plus connu, le passage des moulins à vent.
C'est ça.
Pourquoi ?
Bah écoutez, d'abord parce que ça me ramène à une époque, celle où j'étais étudiante en lettres et en espagnol à Nanterre. Et puis aussi parce que c'est lié à une grande amie qui n'est plus là, avec laquelle j'ai fait ses études. Et on s'est retrouvés toutes les deux en Normandie à la campagne à devoir lire Don Quichotte. Ça nous semblait effrayant parce qu'il y a 2 tomes et je crois que ça fait au moins 1000 pages, voire plus. Donc on s'est dit, voilà, on part une semaine là-bas. Et donc on lisait toute la journée. Et je ne m'attendais pas du tout à rire autant à ce livre. On riait tout le temps, on posait le livre, on se disait « t'as vu tel passage, t'as vu tel chapitre, ah 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 ». Et finalement, c'est un roman absolument foisonnant, rempli d'histoires, d'aventures, un roman à tiroir, où à chaque fois qu'il leur arrive une péripétie, on leur raconte des histoires. Enfin, c'est un roman d'une richesse inouïe. Et le premier tome et le deuxième sont très différents dans mon souvenir, parce que je ne l'ai pas relu pour cet exercice aujourd'hui. Mais dans le deuxième tome, il devient un mythe, donc tout le monde est au courant, tout le monde le connaît, donc on se rit de lui encore plus. Je comprends que ce soit un livre qui ait eu cette notoriété mondiale. C'est un livre qui est, je trouve, encore très moderne, qui parle de la folie, des rêves. C'est un fou qui se prend pour un chevalier errant, qui a pour mission de parcourir l'Espagne. C'est à la fois... pour combattre le mal, les opprimés, il prend la route, il passe pour un illuminé, voilà, en tout cas dans le premier tome, au milieu de tout le monde. Il réussit quand même à convaincre Sancho Panza, qui est un pauvre paysan, il le fait rentrer dans ses délires. Voilà, dont la seule préoccupation est de se remplir la panse. Mais puis c'est aussi une peinture fouillée de l'époque, une peinture sociologique détaillée de l'Espagne du siècle d'or. Voilà, donc c'est un livre qui est un peu voilà, un hommage à l'étudiante que j'ai été et puis à cet ami très cher qui a partagé avec moi ses études et ce livre dont on a parlé longtemps ensemble.
Quelle musique vous voulez nous faire entendre après cette lecture ?
Alors c'est aussi une musique que j'ai choisie, voilà, que m'a fait découvrir mon ami Odile et qui est Abel Lincoln, qui a une voix magnifique. Le morceau s'appelle « Throw It Away ».
Figure made of clay, and think about the things I lost, the things I gave away. And when I'm in a certain mood, I search the halls and look. One night I found these magic words in a magic book. Your love, live your life each and every day, and keep your hand wide open, let sunshine through, 'cause you can never lose a thing if it belongs to you.
cradle and a hand to help us stand. With the gentle kind of motion as it moves across the land, and the hands unclenched and open, gifts of life and love it brings. So keep your hand wide open if you need anything. Throw it away, throw it away. Give your love, live your life each and every day, and keep your hand wide open. Let the sun shine through, 'cause you can never lose a thing if it belongs to you.
La voix d'Abel Lincoln qui chante qu'on ne peut pas perdre quelque chose qui nous appartient. Demain, c'est Thomas Baumgartner qui sera à ce micro. Il vous fera entendre la fin du déballage de bibliothèque de Delphine Rich, orchestré par Romain de Bec-de-Lièvre. Et tout de suite, vous prendrez bien un petit Polaroid pour la route. Devant lui, de l'eau. Dans son dos, de l'eau. Au cœur de sa paume, lorsqu'il y plonge les mains, de l'eau. L'océan tout entier, pour avoir essayé plusieurs fois de le recouvrir, l'entoure. Son corps est maigre, son visage émacié, sa peau brunie par le soleil, et il tient en équilibre serein sur un radeau que composent exactement 7 troncs d'arbres. Il est ce à quoi il a échappé. Il est ces naufrages qui ne l'ont pas englouti. Il est cette vague qui ne l'a pas renversé. Il est une terrible tempête qui ne lui a pas arraché le bras. Il est un homme au milieu de la mer. Dans sa tête, un théâtre d'ombres bruyantes rejoue l'histoire du monde. Il regarde. Il l'écoute. Il se bouche les oreilles, mais les oreilles entendent. Il se cache les yeux, mais l'écartement des doigts le laisse voir. Parfois, pour rire, il s'allonge sur le radeau, met la tête dans l'eau et fait des bulles comme dans la baignoire. Lorsqu'il remonte, les cheveux mouillés et déjà raidis par le sel, il chante une chanson venue de ce temps-là. Comme il lui fallait une compagnie, il a élu un cachalot. Et comme les cachalots mangent de tout, il le mangera à la fin. Pour l'instant, il s'aime et se regarde. Lui, faible et sans mouvement, sur le radeau de bois cuisant sous un soleil de plomb. L'animal, gras et gracieux, nageant dans l'eau profonde, produisant de sa gueule un cliquetis à l'impressionnant écho et battant tous les records d'apnée en profondeur. C'est l'histoire d'un homme, somme de tout, et celle d'un cachalot dormant à la verticale. Et cela se passe dans l'océan. Miss Chanel choisissait le groupe Shimmering Stars avec le titre No One pour ce dernier Polaroid.
Est-ce que vous avez un polar ?
Un quoi ?
Un Polaroid, Jacques. Le nôtre est cassé, les enfants l'ont jeté dans les cabinets.
Oh non, on n'a pas de polar, non. Ici, tout le monde est déporté. J'ai un séminaire pendant tout le week-end de la banque Bernet et Bernet, avec Edgar Bernet en personne. En réalité, il n'y a plus d'eau chaude et on va se laver à l'eau froide pendant tout le week-end. Alors même si j'avais un polar, je n'aurais aucune envie de faire vos photos.
Très bien, ok, je vous fiche la paix, je vais me débrouiller toute seule. Hein. Ciao, au.
J'adore. Il est 16h20, vous écoutez France Culture. Cette semaine, nous avons dit que le mélange des gènes en synergie avec l'environnement est ce qui nous fait absolument unique. Nous avons dit que du mélange entre les populations, il avait toujours été question, et que la globalisation ne faisait qu'étendre le vocabulaire génétique en jeu dans notre formation, comme on multiplierait des dictionnaires. Nous avons questionné l'évidence qu'est aujourd'hui l'école mixte en France, avec en ligne de mire une fameuse égalité entre les sexes. Aujourd'hui, le mélange est élevé au rang du procédé. Poétique. William Burroughs découvre le cut-up, méthode mécanique qui, je cite, « broie les textes dans une machine impitoyable » à travers le travail de l'artiste et poète Brian Gissing à la fin des années 50, toute fin. Échapper au contrôle de l'intelligence, à l'illusion d'une possession des mots, discuter de la position de l'auteur. Depuis quand les mots appartiennent-ils à quelqu'un, demande Burroughs. Par cette machine déconnectante, reconnectante, mélangeante, donc, Burroughs entend que les poètes libèrent enfin les mots. Clémentine Hougue, vous êtes docteur en littérature générale et comparée. Vous avez participé à de nombreux ouvrages collectifs et fin 2014 paraîtra aux Presses du Réel une réécriture de votre thèse consacrée à William Burroughs qui sera titrée, le titre est définitif, la date de sortie non, le cut-up de William Burroughs, histoire d'une révolution du langage. Bonjour et merci d'être avec nous.
Bonjour, merci.
Drove all night, came at dawn to a warm, misty place, barking dogs and the sound of running water. Thomas and Charlie, I said. What? That's the name of this town. Sea level. We climbed straight up from here 10,000 feet. I took a fix and went to sleep in the back seat. She was a good driver, you can tell as soon as someone touches the wheel. Mexico City, where Lupita sits like an Aztec earth goddess, doling out her little papers of lousy shit. Selling is more of a habit than using, Lupita says. Non-using pushers have a contact habit, and that's one you can't kick. Agents get it, too. Take Bradley, the buyer, best narcotics agent in the industry. Anyone would make him for junk. I mean, you can walk up to a pusher and score direct. He is so anonymous, gray, and spectral, the pusher don't remember him afterwards. So he twists one after the other. Well, the buyer comes to look more and more like a junkie. He can't drink. He can't get it up. His teeth fall out. He's all the time sucking on a candy bar.
Clémentine Hougue, le cut-up n'a pas encore commencé. Quand The Naked Lunch est écrit, les composés entre 1954 et 1959, on entend la voix de William Burroughs pour introduire la discussion et peut-être présenter cet homme, artiste et poète. Qu'est-ce que vous pouvez en dire ?
Alors, ce qu'on vient d'entendre, le Festin nu, c'est évidemment l'œuvre majeure, en tout cas celle qui a contribué à faire de Burroughs Burroughs. Et il la compose à Tanger, dans une situation extrêmement difficile, puisqu'il est encore extrêmement intoxiqué à l'héroïne à cette époque-là, en tout cas au début de la rédaction. Il est aidé ensuite par Ginsberg et Kerouac, qui le rejoignent à Tanger et qui l'aident à mettre en forme ses manuscrits. Et par quand il rentre dans la chambre d'hôtel à Tanger de Burroughs, il découvre qu'elle est tapissée de feuillets. Et il l'aide à mettre ses feuillets en ordre. Et c'est un éditeur parisien, Maurice Giraudias, qui dirige Olympia Press, qui va publier ce texte. Et c'est là que commence l'aventure parisienne pour Burroughs. Et c'est là aussi que naît le cut-up, puisque c'est une naissance parisienne pour ce procédé d'écriture.
Où commence l'aventure parisienne pour Burroughs et finalement où se passe ce point de rencontre assez fondamental avec un autre homme dont il faut parler aussi, Brian Gissing?
Oui, ça se passe donc rue Gillecoeur, dans ce qui deviendra ce qu'on appellera par la suite Beat Hotel. C'est un hôtel dans lequel séjournent des artistes, écrivains américains, marginaux, sans le sou. C'est un hôtel miteux réellement, mais on vit cette communauté-là. Et il retrouve en fait Brian Gissing dans cet hôtel puisqu'il l'avait déjà rencontré à Tanger grâce à Paul Bowles qui était très influent à Tanger et qui organisait beaucoup de soirées. La rencontre à Tanger n'avait pas donné lieu à une collaboration ni même une amitié, mais quand ils se retrouvent à Paris, là, ils vont commencer à travailler ensemble et le cut-up va naître d'une découverte hasardeuse.
Sur quoi il travaille Brian Gissing à ce moment-là ?
Alors, à ce moment-là, il restera peintre, plasticien. Il est également poète. Il travaille justement sur de la poésie mise en voix, d'abord, de la poésie sonore. Ensuite, on le considère comme un des pères de la poésie sonore américaine. Et la naissance du cut-up est liée à son travail de plasticien, puisqu'il avait besoin de découper différents matériaux, des papiers. Et pour ne pas abîmer sa table de travail, il mettait des papiers journaux dessous. Et le coup de cutter entamait le papier journal. Et il s'est aperçu que ces papiers journaux, qui étaient simplement un support, une fois découpés, quand on les rapprochait, on arrivait à avoir des phrases cohérentes qui donnaient un nouveau sens. Et c'est comme ça que naît le cut-up, d'une découverte hasardeuse. Et ensuite, il va être développé. Alors, Gissing va l'utiliser sous forme de permutation. Une phrase simple, « I am what I am », par exemple, dont on permute tous les mots suivant toutes les combinaisons possibles. Et aussi, alors c'est Burroughs qui va le développer, lui, qui va l'utiliser pour écrire des romans. Et c'est là que se situe la plus grande innovation. Des procédés de collage, il y en a avant Burroughs. On trouve chez Tristan Tzara, avec le, comment faire un poème dadaïste, les mots tirés d'un chapeau. On en trouve chez T.S. Eliot, avec la terre vaine, The Wasteland, qui est aussi une sorte de collage de différentes sources. Mais sauf que ça reste de l'écriture poétique, donc des formes plutôt closes, plutôt courtes. Là, on arrive, avec Burroughs, à du collage dans de la forme romanesque. Et ça, c'est un énorme changement.
Quelle est la matière première ? Vous dites qu'au départ, finalement, le surgissement de sens se fait à partir de brèves journalistiques, simplement des nouvelles, et qu'en les superposant, les changeant, il se passe quelque chose. Ça ne reste pas que ça, leur matière première. Avec quoi ils travaillent ? Quel est leur matériau ?
Alors, il est de toutes sortes. Ça peut être des articles de journaux, des publicités, des textes personnels, des textes d'amis, des textes de la littérature. Dans les entretiens avec Daniel Audier, le job, Burroughs cite une liste incroyable d'auteurs qu'il a cut-upés. Ça va de Burroughs lui-même, bien sûr, Rimbaud, Shakespeare, Conrad, Genet. La liste est extrêmement longue. Il va aussi puiser et ça c'est aussi l'originalité de Burroughs, dans de la littérature populaire. Des un peu romans de gare, et il va mélanger tout ça. Et quand on lit le cut-up, évidemment, il est absolument impossible de se lancer dans le jeu de pistes parce que les fragments sont très courts et surtout qu'après les cut-up sont mélangés entre eux.
C'est ce que j'allais demander. Ouais, là, on rentre vraiment dans la cuisine, mais est-ce que le mélange outrepasse l'œuvre ? C'est-à-dire que quand il découpe Rimbaud, est-ce qu'il va jusqu'à découper Rimbaud et se mélanger lui-même, oui, Burroughs avec Rimbaud, et jusqu'où va le mélange ? Combien d'ingrédients il peut mettre dans un même et seul cut-up ? Est-ce qu'il y a des règles en la matière ?
Alors, il n'a jamais explicité la façon dont il traitait ces différents matériaux. Ce qu'il a explicité, c'était le procédé mécanique, technique de découpage. Il hybride réellement tous les textes en les fragmentant à un point où justement tout se mélange. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le cut-up s'autogénère. Deux textes en cut-up sont redécoupés, remélangés et donnent lieu à un troisième texte et ainsi de suite. Donc il y a un principe en plus d'autogénération, c'est une écriture proliférante dans cette technique d'écriture.
La méthode est simple. Voici l'une des manières de procéder. Prenez une page, cette page par exemple. Maintenant coupez-la en long et en large. Vous obtenez quatre fragments. 1, 2, 3, 4. Maintenant, réorganisez les fragments en plaçant le fragment 4 avec le fragment 1 et le fragment 2 avec le fragment 3. Et vous obtenez une nouvelle page. Parfois, cela veut dire la même chose. Parfois, quelque chose de totalement différent. Faire un cut-up de discours politique est un exercice des plus intéressants. Et dans tous les cas, vous découvrirez que cela signifie quelque chose et quelque chose de tout à fait déterminé. Prenez n'importe quel poète ou prosateur que vous aimez. La prose ou les poèmes que vous avez lus maintes et maintes fois. Les mots ont perdu toute signification et toute existence au cours d'années de répétition. Maintenant, prenez le poème et recopiez les passages choisis. Remplissez une page d'extrait. Maintenant, découpez la page. Vous obtenez un nouveau poème, autant de poèmes que vous voulez. Autant de poèmes de Shakespeare ou de Rimbaud que vous voulez. Tristan Tzara a dit « La poésie est pour tous ». Et André Breton le traita de flic et l'expulsa du mouvement. Répétez, la poésie est pour tous. La poésie est un lieu public et vous êtes libre d'entièrement cut-upiser Rimbaud et vous vous trouvez à la place de Rimbaud. Les cut-ups sont pour tous. N'importe qui peut faire des cut-ups.
Clémentine Houg, on entend Cyril Baer lire quasiment un manifeste du cut-up. C'est tiré d'un livre qui s'appelle « Œuvres croisées ». Ceci est le titre français de la publication qui date de 1976. Au départ, en 1965, il s'appelle « Le tiers-esprit ». Et c'est une sorte de combinaison des textes entre Brian Geisy... Comment je l'ai appelé ? Brian Geisy, oui, voilà, c'est ça, et William Burroughs. J'ai failli faire une horrible blague. Il est vraiment question ici d'un mode d'emploi. Vous avez dit qu'il ne donnait pas exactement la façon dont il procédait pour ses cut-ups, mais en même temps, c'est comme un encouragement. Oui. En quoi est-ce que ça bouscule, dans un premier temps, tout de suite, la qualité d'auteur ?
Alors, il est évident que là, le travail de l'auteur, finalement, devient un assembleur, hein, presque un bricoleur, un collagiste. Donc se pose un peu aussi la question qui s'est posée dans la peinture avec le collage, finalement, avec les papiers collés cubistes, avec le collage dadaïste. Qu'est-ce qui fait œuvre ? Est-ce que c'est la création, le poète démiurge, celui qui va créer un monde ? Ou est-ce que c'est justement celui qui s'approprie les textes des autres ? Burroughs dit que toute écriture est en fait un cut-up, des mots lus et rabâchés, je le cite. L'idée, c'est justement que la poésie est un lieu public, qu'elle appartient à tout le monde et que, de toute façon, écrire est toujours réécrire. Donc à partir de ce moment-là, c'est effectivement un manifeste technique. Il le dit, la méthode est simple, alors faites-le. C'est vraiment un appel aussi à s'emparer du texte. Et du coup, ça pose bien sûr la question de la propriété intellectuelle que Burroughs ne rejette pas tant comme principe en soi, il la rejette dans la mesure où il considère que c'est un conditionnement. Et Burroughs est vraiment un artisan, et dans sa technique d'écriture et dans les intrigues qu'il tisse dans la trilogie Nova notamment, un artisan du déconditionnement. Il considère que les sociétés occidentales se maintiennent sur le conditionnement des individus et que le cut-up est finalement un processus d'émancipation vis-à-vis du conditionnement au langage, à l'écriture, au respect de la propriété intellectuelle, à cette figure de l'auteur aussi très surplombante, et que c'est en s'appropriant les textes, en les manipulant soi-même aussi, qu'on peut s'émanciper.
C'est ce qu'il dit quand il dit « prenez n'importe quelle prose, oui, n'importe quel poème de n'importe quel poète que vous aimez, de toute façon ce sera déterminé ». Il utilise quasiment un mot extrêmement sociologique pour parler de ça. L'idée est de, quand il dit qu'il faut libérer le sens, il faut aussi libérer les êtres qui sont pris dans la détermination, qui sont la leur au moment où ils écrivent, ça va jusque-là ?
Oui, ça peut aller jusque-là, bien sûr. C'est effectivement sortir d'une détermination et s'émanciper des déterminismes, d'une certaine manière. C'est aussi, ça repose sur l'idée que le langage appartient aux élites. Ceux qui parlent sont ceux qui sont autorisés à parler. Et utiliser, par exemple, les discours politiques, les détourner, puisqu'on s'approche là du détournement aussi.
Mais la poésie est un lieu public, voilà. La poésie est pour tous.
Complètement. Et c'est l'idée que, dans la mesure où le langage est la propriété des élites, des grands médias, des politiques, c'est un processus d'émancipation que de l'arracher à ses propriétaires et de se l'approprier, mais en le brisant, pas en le gardant dans sa forme articulée. Si on la garde dans sa forme articulée, on ne fait que reproduire ce langage du dominant. Et c'est en le détruisant qu'on arrive aussi à un langage émancipé. Ça passe par une phase de destruction nécessaire.
Tout à l'heure, je citais le titre du livre qui va paraître fin 2014, qui est une réécriture de votre thèse et qui s'appelle Une révolution dans le langage. Jusqu'à quel point elle est théorisée, cette révolution, par Burroughs lui-même et par les gens qui l'entourent à ce moment-là ?
La pensée est relativement aboutie, notamment dans des entretiens. Il y a toute une période, justement, après l'écriture de cette trilogie, où Burroughs va écrire énormément de petits textes, des essais, mais la frontière entre l'essai et l'écriture poétique, chez Burroughs, elle est toujours un peu difficile à poser. De toute façon, c'est justement le mélange, c'est de la transgression, donc il mélange les genres, il mélange les textes métapoétiques dans l'œuvre croisée, c'est très clair, il mélange du manifeste avec de la création, il va mélanger donc aussi de l'essai avec de la création littéraire. Et donc c'est là aussi qu'il va avoir à cœur d'expliquer ce qu'il a fait dans la trilogie Nova, parce que la réception en a été plus que mitigée, et qu'il a à cœur d'expliquer aussi ce qui se passe dans cette trilogie et ce qu'il a voulu mettre en place. Donc sur le plan idéologique, c'est assez abouti, sans pour autant être politiquement positionné sur une ligne particulière. C'est vraiment la théorie du déconditionnement et cette ambition-là qu'il développe à ce moment-là, entre 65 et 70 à peu près. Après, il va revenir à des techniques narratives un peu plus linéaires. Mais le cut-up reste un travail préparatoire, mais il réécrit davantage parce qu'il s'est rendu compte, je pense, qu'il n'était pas suffisamment compris.
Justement, oui, puisque vous parlez de la réception mitigée, comment est-ce que ces textes-là sont reçus ? Par qui sont-ils reçus ? Et comment est-ce qu'ils peuvent être lus à la hauteur du geste qu'ils représentent ?
Alors, ils sont... c'est pas un succès public énorme et c'est pas un succès critique du tout. D'ailleurs, les articles ont été compilés dans un livre qui est paru aux États-Unis.
Concernant son œuvre.
Voilà, une histoire de sa réception. Donc, une compilation d'articles de 49 à 80, non, de 59 à 89. On voit très bien l'évolution de sa réception. Et c'est vrai que ce qui a vraiment... l'attention s'est focalisée sur les thèmes, la drogue, la sexualité, l'homosexualité, qui a finalement, ces thèmes ont complètement éclipsé le procédé d'écriture. Parce que le procédé d'écriture est éminemment politique aussi, et donc ça nécessitait de peut-être de mettre en question un certain nombre d'institutions, comme l'auteur, comme l'écriture, comme le livre même. Puisque c'est une trilogie, les livres débordent complètement les uns sur les autres. C'est difficile de les isoler en roman. C'est un livre qui déborde aussi vers... C'est une trilogie, pardon, qui déborde aussi vers l'extérieur, vers le lecteur, parce qu'elle est émaillée d'appel à couper les lignes, à couper les lignes de mots. Donc, il y a constamment un dialogue avec le lecteur dans ces œuvres-là. Et cette dimension-là a échappé à la critique. Elle a commencé à apparaître quand, finalement, la critique aussi a mis en place de nouvelles méthodes d'analyse, issues notamment des philosophies post-structuralistes françaises. Et c'est vrai qu'à partir de la réception aux États-Unis et dans le monde, d'ailleurs, d'auteurs comme Barthes et par la suite, plus tard, Foucault, Deleuze, Derrida, etc., on a commencé à regarder ce texte d'une autre manière, à penser qu'il était aussi une réflexion sur le langage et finalement une réflexion en acte sur le langage.
Avec quels nouveaux outils, justement, ces textes sont regardés différemment? Parce qu'il est question dans les textes, dans œuvres croisées, il est question de machines, il est question de techniques, de technologies presque. Est-ce que c'est quelque chose qui appelle, en 60 et en 70, les nouveaux penseurs qui l'envisagent?
Alors, à partir des années 70, justement, c'est le découpage comme possibilité de créer des espèces d'hybrides conceptuels qui va commencer à intéresser la critique. Pour autant, Burroughs n'est pas cité non plus sur vraiment devant de la scène par les philosophes eux-mêmes, par exemple. Il va être cité notamment par Deleuze, mais un petit peu plus tard, sur justement les machines de contrôle que Deleuze va reprendre dans un article qui est paru en 90, qui est repris ensuite dans la compilation Pour parler. Et dans lequel Deleuze explique que Burroughs avait saisi ce que devenaient les sociétés occidentales en mettant justement en place des systèmes de contrôle. Parce que la trilogie raconte l'histoire d'un contrôle généralisé qui est opéré par le studio réalité. Le studio réalité, c'est le monde qui est devenu un immense plateau de cinéma et nous vivons tous dans un monde...
Ça, c'est dans la trilogie de
Ça, c'est dans la trilogie Nova. Donc celle des années 60, la première trilogie. Puisqu'il y en aura d'autres après. Et dans cet univers, c'est de la science-fiction, hein, donc il puise vraiment dans le matériau, les extraterrestres, tout le matériau de la science-fiction, je dirais entre guillemets traditionnel.
Toujours en découpant.
Toujours en découpant, et là c'est extrêmement fragmenté, il n'est jamais allé aussi loin. Après il y a des plus petits textes aussi qui sont très fragmentés, mais un tel degré de fragmentation sur trois romans, c'est tout à fait inédit, et jusque-là quasi inégalé. Enfin oui, inégalé. À mon sens, en tout cas. Et cette histoire raconte donc comment la conspiration met en place une réalité truquée qui nous, finalement, qui nous maintient dans un état d'intoxication aux images. On devient des consommateurs d'images, on ne pense plus qu'à consommer des images. Je dis on parce qu'il parle des individus, n'importe qui peut être un point d'intoxication, puisqu'à partir du moment où on est intoxiqué, on devient aussi un relais de l'intoxication. Donc tous les individus sont des personnages hybrides, à la fois hautement intoxiqués, mais aussi vecteurs de l'intoxication.
Est-ce qu'on lit un petit extrait du Tiki
Tiki
Explosa ?
Volontiers.
Clémentine Hugues, dans votre voix.
Quand la piqûre d'apomorphine éclipsa les poisons de Minro, il ressentit un engourdissement aigu et brûlant. Son corps sortait congelé des fours, puis les viscères explosèrent en vomi. Le moule recouvrant son corps craqua et il en sortit libéré. Une créature svelte et verte, les mains comme des serres noires, recouvertes de fils magnétiques qui allaient de l'intérieur de l'avant-bras jusqu'au coude. Il portait un masque à gaz pour se protéger du gaz carbonique lâché par la planète ennemie. Des oreilles antennes accordées à toutes les voix de la ville, chaque voix classée sur un standard silencieux. Des yeux comme des disques verts avec les pupilles bleues électriques pâles. L'arrière-cerveau et la colonne vertébrale brûlaient. Étincelles bleues quand les messages craquaient à l'intérieur et à l'extérieur.
Clémentine Hook, c'est un extrait du deuxième opus de la trilogie dont on discute, Ticket qui explosa. Quasiment tous les thèmes importants qu'on a évoqués jusqu'à maintenant sont là. Il est question d'hybridité, d'un être qui comporte plein de morceaux mélangés de lui. Et puis aussi, il me semble tout de même l'idée du poison et du remède. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on a parlé de la façon dont le lecteur était invité à devenir auteur. Au final, la ligne est volontairement coupé entre ces deux sphères-là. Là, il parle d'une autre ligne qui est coupée, mais qui est plus dangereusement coupée. Comment ce côté positif et négatif s'articule chez Burroughs ?
Alors là, effectivement, dans le texte que je viens de lire, il est question de la perte, finalement, de l'individualité, aussi de la fuite de l'individualité liée à l'intoxication. Donc, effectivement, on trouve un peu le double monstrueux de la perte, finalement la fin des limites entre auteur et lecteur.
Ça, c'est là, le côté joyeux et enthousiasmant et démocratique.
C'est le côté activiste, celui-là. Parce que ce côté activiste, justement, doit lutter contre le côté conditionnement. Parce que le conditionnement, c'est aussi une perte des limites. Quand on est conditionné par quoi que ce soit, et c'est, par exemple, dans cet extrait et dans la trilogie Nova par une intoxication, on est conditionné à prendre un produit en particulier, on est finalement aussi dans la perte de soi, dans la fuite de soi, puisqu'on ne devient plus qu'un élément. C'est ce que Burroughs appelle l'algèbre du besoin. C'est quelque chose qu'il écrit déjà dans le Festin nu. L'algèbre du besoin, c'est finalement l'enrichissement, enfin le maintien du besoin par son assouvissement.
Et il sait de quoi il parle.
Et on voit d'ailleurs que les modélisations d'intoxication aux images, au langage, puisque c'est ça dans la trilogie, est totalement inspiré aussi de ce qu'il a vécu lui en tant qu'héroïnomane, comme cette espèce de auto-engendrement du besoin. Plus on l'assouvit et plus il revient fort, ce besoin. Et donc on n'est plus soi-même, on n'est plus que l'esclave de cette chose extérieure.
Now bleed for me.
Clémentine Hong, on entend le Velvet Underground, parce que j'imagine que c'est pas très loin dans votre panthéon.
C'est complètement dans mon panthéon, et en plus c'est un groupe qui se trouvait proche de Burroughs quand il est revenu à New York en 72, où il a fréquenté la Factory, où il était proche. Il est devenu aussi un des acteurs de ce noyau contre-culturel américain.
Et justement, il faut parler peut-être du mélange qui s'opère à l'intérieur de son travail entre les arts. On n'a pas pris dans œuvre croisée la directe référence qu'il fait à la peinture d'emblée, puisqu'il dit la littérature a 50 ans de retard sur la peinture. Quel est le mélange qui s'opère dans cette logique de cut-up à l'intérieur de son travail ?
Alors, le mélange avec la peinture, effectivement, partant du principe que la littérature a 50 ans de retard sur la peinture, il traite le langage comme un matériel réellement. Et finalement, on en a discuté depuis tout à l'heure, comme un présupposé, comme une évidence, mais c'est loin d'en être une. Considérer que le mot n'est pas un sens, mais avant tout une matérialité, ça aussi, ça renverse un paradigme qui consiste à penser que le sens prime sur la forme. Or, non, c'est la forme qui fait sens avec Burroughs et avec beaucoup aussi d'autres avant et après lui. Mais lui, il met vraiment en évidence ce principe, c'est que le mot est un matériau, comme il est le pinceau du peintre, il est la toile du peintre, et il est manipulé aussi comme les mouvements d'avant-garde du début du XXe siècle le font avec le collage, par exemple.
Est-ce que ça veut dire que de manière totalement indistincte, il prend n'importe quel matériau ou quand même il va vers un matériau différent ? C'est-à-dire, est-ce qu'il appelle autant la peinture qu'il appelle le son, qu'il appelle le dessin, qu'il appelle tous les arts réellement à sa table ?
Le principe du découpage et du mélange a cette force qu'il, justement, il peut appeler tous les arts. Et donc, la réflexion sur la peinture est aussi à l'origine du cut-up. Il va faire des cut-up sur bandes magnétiques, c'est-à-dire ce qu'il appelle des épissures. Il prend des bandes magnétiques, il les découpe et il les colle, exactement comme il le fait avec des morceaux de texte. Il va également faire des films sur cette méthode-là, avec Anthony Balck, dans les années 60, à Londres. Il réalise comme ça il co-réalise plusieurs films dans lesquels, justement, il n'y a plus du tout de linéarité. Les morceaux de films, en fait, il prend des bobines, il filme au kilomètre, et ensuite il découpe les pieds de bobines et il les enchaîne. Un pied de bobine 1, un pied de bobine 2, un pied de bobine 3, il recommence. Et c'est notamment The Cut-Ups, un film manifeste, puisque tout est dans le titre. La pratique s'applique à tous les arts possibles.
Avec une logique de rapprochement, c'est-à-dire qu'il décide de tout de même couper une partie précise et assembler à une partie précise, ou est-ce que le hasard est à l'œuvre ?
Alors le hasard, il faut quand même en limiter la portée, dans la mesure où il y a une certaine mécanique, pour ne pas dire presque un algorithme, dans la mesure où il va décider de prendre un fragment de tel texte et de les assembler. C'est hasardeux, c'est le résultat qui est hasardeux, c'est le sens que ça produit qui est hasardeux. Mais finalement, la procédure est assez mécanique. On va prendre un morceau de texte 1 avec un morceau de texte 2, les combiner ensuite avec un troisième texte. Les textes, effectivement, ils sont présélectionnés au départ, mais c'est le sens qui va jaillir de ce hasard de la composition qui va réellement, là, donner la libération du sens aussi.
Évidemment, il y a plusieurs façons de lire ce travail. Depuis tout à l'heure, on oscille entre différentes couches. Il y a la façon de sentir un texte, de sentir des images qui ont été travaillées de cette manière-là au cut-up, et puis il y a toute la dimension politique, esthétique, théorique, qui est suggérée, qui est appelée par ce travail-là. En décidant de mettre côte à coûte des choses, on décide de faire et pas où et où. C'est-à-dire qu'on fait une proposition théorique en disant la chose, elle est à la fois ceci et à la fois cela. Comment est-ce que c'est à l'œuvre, cette pensée-là, dans la poésie et dans le travail de Burroughs ?
C'est à l'œuvre réellement à tous les niveaux. C'est une écriture de l'hybridité à tous les niveaux, au niveau des procédures comme au niveau des histoires. Des personnages hybrides peuplent tous les romans de Burroughs, réellement, jusqu'à la fin, jusqu'à ses derniers textes. Parce que la dimension politique, on en a parlé, la dimension esthétique, on l'a abordée. Il y a plus fondamentalement quelque chose qui est de l'ordre d'une opposition de Burroughs à la logique traditionnelle, héritée d'Aristote. La logique aristotélicienne repose dans la grande ligne sur trois principes. Le principe d'identité, A est égal à A. Le principe de non-contradiction, A est différent de non-A. Et enfin, le principe du tiers exclu, A ne peut pas être différent de A, et A ne peut pas être égal à non-A. Et finalement, Burroughs dit, A peut être égal à non-A. Les choses sont de manière interne contradictoire. Et ça, il l'emprunte à un philosophe, penseur, logicien, Alfred Korzybski, qui, dans la sémantique générale, justement, développe ce genre d'idée et postule que les choses sont hybrides, contradictoires de manière interne. Et finalement, ça rebat complètement les cartes des sources de la culture occidentale, donc, en tout cas d'une des grandes sources de la culture occidentale qui est Aristote.
Est-ce qu'il y fait manifestement appel quand il titre son œuvre croisée avec Brian Gissing, The Third Mind, le tiers esprit ?
Absolument, c'est une référence complètement au principe du tiers inclus, qui fait qu'un seul... un seul objet peut être interne, de manière interne contradictoire. Et c'est justement ce troisième esprit, ce tiers esprit, c'est celui qui émerge de manière spontanée, non maîtrisée, de l'agencement de textes ou plus. Et c'est ce qui va, finalement, c'est aussi une façon de créer du sens que de le laisser aller vers la contradiction interne. On cherche toujours à donner un sens unique. Sauf que là, on n'est plus dans le sens unique, on est dans un sens qui est multilinéaire, donc qui peut être potentiellement contradictoire.
Tout à l'heure, vous avez décrit son arrivée après Tanger et la réunion de poètes dans un hôtel miteux, rue Gilker, à Paris. Et vous disiez qu'il s'agissait bien là d'artistes sans le sou, à la marge. Mmh. En faisant appel à Aristote, il s'inscrit dans un héritage et dans une lignée qu'il se veut quasiment assez monumentale qui me vient à l'esprit, mais en tout cas tout sauf la marge quand même. Est-ce qu'il y a une volonté pour lui d'inscrire sa pratique du cut-up dans quelque chose qui a une voix royal?
Pas spécialement. Enfin, la critique d'Aristote, de la logique aristotélicienne, c'est avant tout une critique aussi culturelle. C'est un auteur qui n'a eu de cesse dans toute son œuvre de mettre en question les fondements moraux, idéologiques, logiques de la culture occidentale. Et s'attaquer à Aristote, c'était s'attaquer un peu aux fondements, justement, moraux, logiques, idéologiques aussi de la culture. Et dans le champ des personnes, des penseurs et des structures auxquelles il s'attaque, il y a bien évidemment la religion, l'État, l'Occident comme puissance politique, les États-Unis.
Que des petites choses, quoi.
Voilà, que des petites choses.
Depuis lundi, nous feuilletons un recueil qui s'appelle « Ni terre, ni mer », paru dans une traduction d'Antoine Fongaro à La Différence en 1994. C'est Claude Favori qui nous lit un extrait de ce recueil signé Piero Bigongiari. On écoute.
Pescia, Luc. J'ai vécu dans les villes les plus douces de la terre comme hirondelle passagère. Luc était un nid inaccessible parmi les vignes empoussiérées, au bout de routes blanches, d'où devait jaillir, avec des vols trop fous, dans tes ciels si doux, Toscane, l'antique jeunesse. Ivresse mal assurée, enfance mal dissimulée, le long des maisons de Lunata, que je frôlais en trame près du conducteur. La mort est ce regard fixé sur tes enclos. Et une femme dit, surprise, en abritant ses yeux du soleil sur le seuil, « Le printemps est éclos et l'hirondelle est de retour. »
Nettoyer souvent pour le plaisir, et qu'il faut caresser comme pour le plaisir l'autre, celui qui fait rêver les communiantes. Des armes bleues comme la terre, dès qu'il faut se garder au chaud, au fond de l'âme, dans les yeux, dans le cœur, dans les bras d'une femme, qu'on garde au fond de soi comme on garde un mystère. Des armes au secret des jours, sous l'herbe, dans le ciel et puis dans l'écriture. Dès qu'ils vous font rêver très tard dans les lectures,
et qui mettent la poésie dans les discours des hommes, des hommes, des hommes, des poètes de service à la gâchette pour mettre le feu aux dernières cigarettes au bout d'un verre français. Brillant comme une lame. Des âmes. Des
Clémentine Houg, on termine avec Noir Désir et Désarme, qui rejoint un appel à la révolte formulé par William Burroughs quasiment dans ses écrits manifestes se rapportant au cut-up. Est-ce qu'il y a des héritiers au cut-up aujourd'hui dans le monde du 21e siècle ?
Il y en a énormément. Ils ont commencé à émerger dès les années 70 d'ailleurs, parce que Burroughs est très vite devenu, notamment pour le monde du rock puis du punk, un modèle. Et un modèle... pas forcément toujours pour des bonnes raisons, parce qu'il y avait un peu la figure de Burroughs qui prenait le pas, mais pour beaucoup, ça a été un modèle aussi dans la logique du langage qu'il adopte. Je pense notamment à Laurie Anderson, qui a vraiment saisi l'essence du cut-up, dans son expérimentation dans musique électronique, mais aussi des figures extrêmement populaires, par exemple David Bowie a dit avoir utilisé du cut-up. Les Stones aussi en auraient utilisé sur une des chansons d'Exile on Main Street de 72. Ils l'ont déclaré récemment en plus dans une interview de 2010. Et on a aussi un champ littéraire qui se développe après Burroughs. On pense à des personnages comme Ballard ou Claude Pelieu.
Clémentine Houg, c'était un vrai honneur que vous concluiez cette saison et ces 4 ans de Pas la peine de crier. Merci beaucoup d'avoir
Merci
été
à vous.
Avec
Merci
nous.
Beaucoup.
On attend avec impatience la parution de votre thèse réécrite aux Presses du Réel. Je voulais dire au passage que Oiseau Tempête sera en concert demain à la Ferme Électrique pour la cinquième édition du Festival de la Ferme Électrique qui a lieu du 4 au 5 juillet à 25 minutes de Paris. Pour écouter cette émission et celles qui les ont précédées, on se rend sur le site internet franceculture.fr. Sur la page, vous pouvez nous envoyer vos cartes postales et autres pensées voyageuses. On se donne aussi des nouvelles via Twitter en signant @palapeine2. Merci à Céline Geoffroy, Béatrice Leca, Laurette Nobécourt et toutes les personnes ayant participé à la réalisation des poèmes du jour, donc aux comédiens de la Comédie Française. Aux manettes aujourd'hui, c'était Bruno Gagnère-Fontani. J'envoie mes salutations très amicales et reconnaissantes à tous les techniciens qui sont passés par ici. Une dédicace extrêmement reconnaissante aussi à l'équipe géniale qui m'entoure tous les jours et pense cette émission de manière exigeante, vivante, vivifiante. Merci Inès, merci Romain, merci Anne-Laure, merci Cyril et bonnes aventures. Je vous retrouve demain à la première heure et dans un instant le 5 à 7.
J'ai aucune méthode d'écriture, mais je prends des douches 8 à 6 par jour.
Et Dieu dans tout ça?